إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, l'explication de la sourate Al-Humazah. Cette sourate est une sourate mécoise qui est composée de 9 versets. Et Al-Humazah est traduit par les calomniateurs, qui sont ceux qui jettent volontairement le discrédit sur une personne, la méprisent ou la rabaissent. Et ceci est quelque chose de blâmable, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les calomniateurs dans cette sourate. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, « وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ » Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc le mot « wail » qui est traduit ici par « malheur », c'est une menace sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'encontre des calomniateurs. Il les menace d'un châtiment douloureux. Et il va nous décrire dans les versets suivants une part de ce châtiment. Il dit donc, subhanahu wa ta'ala, « وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ » Malheur à tout calomniateur diffamateur. Les mots calomniateur et diffamateur, en langue française, ils sont relativement proches. On a dit que la calomnie, c'est le fait de jeter le discrédit sur une personne. Et la diffamation, en français, elle désigne le fait de chercher à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un, et ce par des écrits ou des paroles. Et dans la langue arabe, al-hammaz, c'est celui qui dénigre les gens par ses actes, les méprise et cherche à les rabaisser. Comme par exemple en faisant des gestes avec ses mains, des signes avec ses yeux, ou même une simple expression du visage. Et al-lammaz, c'est celui qui dénigre les gens par ses paroles. Et tout cela est interdit dans notre noble religion. Il ne fait pas partie des caractéristiques du croyant et de la croyante qu'ils dénigrent leurs frères et sœurs, ou qu'ils les rabaissent. Mais ceci fait plutôt partie des caractéristiques des hypocrites. Eux qui dénigraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, au sujet de ses choix quant au partage des aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqats. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Et les hypocrites, ils portaient aussi atteinte à l'honneur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leur faible moyen à offrir, ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Donc il est rapporté que ce verset, il a été révélé au sujet des hypocrites qui calomniaient les croyants lorsqu'ils donnaient des aumônes. Lorsqu'ils voyaient un croyant venir avec quelque chose de grand à donner en aumône, ils disaient alors sur lui qu'il faisait cela par ostentation. Et lorsque quelqu'un venait avec une petite quantité à donner en aumône, ils disaient « Allah n'a pas besoin de cela », et ce pour le mépriser et le rabaisser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans ce verset. On voit donc que mépriser les croyants, dénigrer les croyants, les rabaisser, que ce soit par des paroles, ou alors en leur donnant des sobriquets, des surnoms rabaissants, ou alors ne serait-ce que par une simple expression du visage pour rabaisser un musulman. Tout ceci est interdit dans notre noble religion. Et celui qui commet ce péché, alors il est sous la menace d'un châtiment terrible. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela, contrôler sa langue et ne pas mépriser ni dénigrer ses frères et sœurs, car ceci s'oppose à la perfection de la foi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une seconde caractéristique de ces personnes qui sont sous la menace de ce châtiment douloureux. Il dit, subhanahu wa ta'ala, alladhi jama'a malan wa 'addada, qui amasse une fortune et la compte. C'est-à-dire qu'il n'a pour ambition que d'amasser de l'argent et des biens de ce bas monde, et de se vanter de cela. Il n'amasse pas ses richesses et cet argent par désir de le dépenser dans le bien, comme pour faire des aumônes, pour faire plaisir à sa famille et ses proches, en subvenant à leurs besoins, en leur offrant ce qui leur fait plaisir, ou autre parmi les œuvres de bien que le serviteur peut accomplir avec son argent. et qui sont des choses louables. Mais sa seule préoccupation à lui, c'est l'argent lui-même. Il fait sans cesse ses comptes afin de savoir ce qu'il a gagné ou ce qu'il a perdu. Et en parallèle de cela, il est dans l'insouciance en ce qui concerne l'au-delà. Il incombe donc aux croyants de ne pas chercher à amasser des gains et des richesses seulement dans le but de les posséder. Mais ton objectif, il doit être plus noble que cela. Lorsque tu travailles, que tu fais du commerce ou autre parmi les moyens de gagner de l'argent, tu dois penser aux œuvres de bien que tu pourras faire avec cet argent. Penser à le dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des aumônes aux pauvres et aux nécessiteux, à subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Car ceci fait également partie des dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les dépenses que tu fais pour ta propre personne, pour t'acheter des vêtements, de la nourriture, de la boisson, et ainsi de suite parmi les besoins que la personne peut avoir. Également les dépenses que tu fais pour ton épouse, pour tes enfants, pour les gens de ton foyer. Tout ceci fait partie des dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a en cela une récompense immense. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre un dinar que tu dépenses sur le sentier d'Allah, un dinar que tu dépenses dans l'affranchissement d'un esclave, un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, alors le plus immense en termes de récompense est celui que tu dépenses pour ta famille. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ces dépenses. Les dépenses pour leur famille, pour leurs épouses, pour leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte de l'importance de cette dépense et de la récompense immense que cela comprend. Toutefois, il est important de souligner que tu ne peux en tirer profit qu'à condition que ces dépenses soient faites premièrement à partir d'un argent obtenu de manière licite. Et deuxièmement, que tu le dépenses avec sincérité, c'est-à-dire par recherche de l'agrément et de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapportent à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu ne fais certes aucune dépense en recherchant le visage d'Allah. Méditez bien sur cette parole, en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais certes aucune dépense en recherchant le visage d'Allah sans que tu ne sois récompensé pour cela, même la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse. On voit à travers cela que ce qui est blâmé dans ce verset, ce n'est pas celui qui réunit de l'argent pour subvenir à ses besoins ou aux besoins de sa famille. Mais ce qui est blâmé dans ce verset, c'est la cupidité, le fait d'avoir ce désir excessif et exagéré d'amasser de l'argent et d'en avoir toujours plus sans que personne n'en profite. Alors c'est celui-ci qui est sous la menace. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant à son sujet: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Il pense que sa fortune l'immortalisera. C'est-à-dire qu'il pense que cet argent et ses biens, qu'il amasse et qu'il réunit, ils vont lui permettre de vivre des délices éternels et de trouver le bonheur et d'être immortel. Mais en réalité, cet argent-là, il ne lui est pas profitable. Car l'argent, il ne peut être profitable pour toi que si tu le dépenses dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le dépenses dans le bien, tu vas en tirer profit ici-bas, inshallah ta'ala, et tu en trouveras la récompense dans l'au-delà. Donc dans cette situation, l'argent te sera profitable. Mais celui qui amasse des biens et de l'argent et ne les dépense pas, il ne verse pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dessus, il ne verse pas la zakat obligatoire, il ne fait aucune aumône, et il ne dépense pas ses biens pour ses proches et pour les gens qui sont à sa charge. Mais il fait preuve d'avarice. Alors celui-ci, l'argent, il ne lui est pas profitable. Au contraire, cet argent, il sera pour lui une source de malheur, wa l'ayadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: kalla la yumbadhanna fil hutama. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Al-hutama est un nom parmi les noms du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc que cette personne qui amasse de l'argent et des richesses, alors ces richesses qu'il a amassées, elles ne lui seront d'aucun profit quand il sera jeté dans le feu de l'enfer. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Et qui te dira ce qu'est الْحُطَمَةُ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela afin de nous faire comprendre que ce feu est une chose effrayante. Puis il nous le décrit en disant: نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. Le feu attisé d'Allah. C'est un feu dont les gens et les pierres sont le combustible. Un feu immense qui est attisé. Et c'est le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le feu d'un être humain parmi les feux de ce bas monde, des feux qui peuvent s'éteindre et disparaître. Mais ce feu, personne ne peut l'éteindre comme on éteint le feu ici-bas. C'est le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'il a créé et préparé pour les mécréants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Il nous le décrit ensuite en disant, Allati tattari'u 'ala al-af'ida, celle qui monte jusqu'au cœur, c'est-à-dire ce feu. Sa chaleur atteint les cœurs. Donc le feu de l'enfer, il ne brûlera pas seulement la peau, mais il brûlera aussi le cœur du mécréant. Et dans le feu, il ne mourra pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-A'la, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Il ne mourra pas dans celle-ci, ni ne vivra. Il n'aura ni mort ni vie. Médite sur la situation du plus fort des hommes qui puisse exister dans ce bas monde. Si on le plonge dans un feu ici-bas, alors il mourrait sur le moment. Alors que ce feu n'est qu'une des 70 parties du feu de l'enfer. Ajoute à cela le fait que dans le feu de l'enfer, il n'y aura pas de mort. Mais le châtiment sera éternel. À tel point que les gens de l'enfer souhaiteront mourir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et ils s'écrieront, ô Malik, le gardien de l'enfer, que ton Seigneur nous achève. Ils demandent à Malik, l'ange qui est chargé de garder l'enfer, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de les achever, de leur donner la mort, afin de sortir de ce châtiment. Il dira, en vérité, vous êtes ici pour y demeurer éternellement. Ils seront donc éternellement enfermés dans ce feu, l'ayadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore au sujet du feu, dans le verset suivant, إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. Il se refermera sur eux. C'est-à-dire qu'il sera complètement fermé. Et qu'ils n'auront aucune issue pour en sortir. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ. En colonne de flammes étendues. C'est-à-dire qu'en plus des portes qui seront fermées, il y aura des colonnes de feu étendues de tous côtés, afin de ne leur laisser aucun espoir de sortir. Et afin qu'ils sachent, avec certitude, qu'ils demeureront éternellement dans ce feu, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. Donc cette sourate, comme les autres sourates du Coran, elle n'a pas été révélée seulement pour qu'on la lise, sans la comprendre et sans la méditer. Mais vous voyez qu'il y a dans celle-ci, premièrement, une mise en garde très sévère contre la calomnie et la diffamation, ainsi que le fait de mépriser les gens et les dénigrer. Donc le musulman, lorsqu'il lit cette sourate, il doit méditer et comprendre qu'il lui incombe de s'éloigner de toute forme de calomnie, de toute forme de diffamation et de toute forme de mépris envers les croyants et les croyantes. Tu dois savoir que ce bout de chair que tu as dans ta bouche, cette langue, elle peut te conduire au fond du feu de l'enfer. Et ce, si tu ne la contrôles pas. Tu dois donc faire en sorte de n'utiliser ta langue que pour prononcer des paroles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, les gens calomnient, diffament, médisent et méprisent les croyants et les croyantes et pensent que ceci est une chose insignifiante. Certains font même cela pour faire rire les gens. D'autres font cela en pensant qu'ils font des mises en garde ou avertissent contre un prétendu mal ou autre chose semblable qui sont devenues fréquentes aujourd'hui, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. Donc la calomnie et la diffamation, ce sont de très graves péchés, desquels il incombe aux croyants de s'écarter. Et de la même manière, tu ne dois pas mépriser les gens. Tu ne dois pas les rabaisser. Comme on l'a vu, ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites qui méprisaient les croyants lorsqu'ils donnaient des aumônes. S'ils voyaient quelqu'un faire une grande aumône, disaient celui-ci fait cela par ostentation, et lorsqu'ils voyaient quelqu'un donner une petite aumône, une petite quantité, le méprisaient et disaient « Allah n'a pas besoin de cela ». Et ceci est totalement faux. Car comme on l'a vu, celui qui fait du bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Il le retrouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne convient pas de mépriser les croyants, de prendre les croyants comme sujet de plaisanterie et de les rabaisser. D'autant plus que tu dois te rappeler que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de cette personne et tu ne connais pas l'ensemble de ses œuvres. Il se peut que celui que tu méprises, que tu rabaisses, il est à un rang bien plus éminent que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit prendre soin de corriger sa propre personne. Avant de t'occuper des défauts des autres, tu dois commencer par la réforme de ta propre personne. Penser à tes péchés, te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, améliorer ta situation. Et si tu en as la possibilité, tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, mais sans mépriser ni rabaisser les croyants. Il y a également dans cette sourate une mise en garde sévère contre la cupidité, contre le désir immodéré d'amasser les gains et des richesses, au point d'en oublier l'au-delà. Comme si la personne pensait que ses biens vont la rendre éternelle. Et comme s'il n'avait été créé que pour gagner de l'argent. Il y a certaines personnes aujourd'hui, si tu médites sur leur mode de vie, on dirait qu'ils n'ont été créés que pour gagner de l'argent. Toute leur vie, elle est consacrée à cela. Consacre très peu de temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran est délaissée. Les assises de science sont abandonnées. Les mosquées sont très peu fréquentées. Mais les gens se trouvent haut dans les endroits où ils peuvent gagner et amasser de l'argent. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait créés dans ce but. Alors que ces biens, ils ne sont en réalité qu'un moyen te permettant de concrétiser la raison pour laquelle tu as été créé, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé que pour que tu travailles et que tu gagnes de l'argent. Bien sûr, ceci est nécessaire. Comme on l'a mentionné dans le cours, la personne, elle accomplit quelque chose de louable lorsqu'elle travaille pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Mais ceci ne doit pas être une finalité. Ceci n'est qu'un moyen te permettant de concrétiser cet ordre immense qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui donnant aucun associé. Donc tu gagnes cet argent afin de subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, et pour le dépenser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas simplement pour l'amasser, pour en avoir plus. D'autant plus que ces biens t'abandonneront lorsque tu mouriras. Ils seront partagés entre tes héritiers. Et dans ta tombe, tu n'auras que tes œuvres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, trois choses suivent le mort, deux l'abandonnent et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent, sa famille et ses biens repartent, et ses œuvres restent avec lui. Donc celui qui est doué de raison, il va donner de l'importance à cette chose, à son compagnon, qui restera avec lui dans sa tombe, qui sont ses œuvres pieuses, ses œuvres qu'il doit vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne doit pas se consacrer à l'amas de biens et de richesses dans ce bas monde. Mais ton objectif ici-bas, c'est de prendre tes provisions pour l'au-delà, d'accomplir le bien, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif, de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui est attendu du serviteur. Le rang que tu occupes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en fonction de ton rang social, de ta richesse ou de ta pauvreté. Mais le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fait le plus preuve de piété. Donc le plus important pour la personne, c'est sans cesse de se rappeler que son objectif premier dans ce bas monde et la finalité de sa présence sur terre, c'est de prendre ses provisions pour l'au-delà en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et en se conformant à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il y a dans cette sourate une mise en garde contre le feu de l'enfer. Ce feu qui est attisé et qui brûle la personne qui s'y trouve jusqu'au cœur sans qu'elle ne meure. C'est-à-dire qu'elle sera dans un châtiment éternel. Donc lorsque ton âme est tentée par le fait de commettre un péché, rappelle-toi de ce feu, rappelle-toi du feu de l'enfer, rappelle-toi de ce châtiment terrible, et rappelle-toi que tant que tu es dans ce bas monde, tu as encore l'opportunité d'œuvrer afin d'être sauvé de ce feu. Tant que tu es vivant, il t'est possible d'œuvrer dans le bien, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des œuvres pieuses afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te sauve du feu de l'enfer et te fasse entrer dans le paradis. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de cette sourate. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer et de nous compter parmi les habitants du paradis. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.